Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on ne parlera pas de la COVID pour faire changement. Nous allons plutôt fuir la pandémie en nous plongeant dans notre histoire. L'occasion en est l'incroyable documentaire politique, un genre trop rare chez nous, « Mon père de la Révolution tranquille » sur Savoir.tv. Il porte sur la vie de Georges-Émile Lapalme, un des plus inspirants chefs de l'histoire du Parti libéral du Québec, qui ne fut jamais premier ministre, mais qui eut le premier, le titre de ministre de la Culture. Mais d'abord, c'est mardi, donc on parle à des historiens, et ça tombe bien, le sujet est la Révolution tranquille.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
Il ne se passe pas un événement important au Québec sans qu'on évoque la Révolution tranquille, sans qu'on réclame même souvent une nouvelle Révolution tranquille. Et mes prochains invités proposent une interprétation de ce mythe fondateur, il faut bien le dire, dans leur précis, brève histoire de la Révolution tranquille. Bonjour Martin Paquette.
Bonjour.
Professeur au département des sciences historiques de l'Université Laval. Et bonjour Stéphane Savard, professeur d'histoire à l'UQAM.
Bonjour, Monsieur Robitaille.
Alors, j'ai parlé de mythe fondateur. C'est vraiment ça que c'est, la Révolution tranquille au Québec. Mais comment ça l'est devenu, Martin?
Nous l'apercevons, Stéphane et moi, comme étant un moment important qui apparaît à partir de la mort de Maurice Duplessis. Pourquoi la mort de Maurice Duplessis? Parce que c'est une nouvelle conception de l'État provincial qui se développe à ce moment-là. C'est pas tant d'autres phénomènes, parce que en histoire, on a tendance à voir des phénomènes du style, par exemple, d'urbanisation, le développement économique, ainsi de suite. Déjà là, c'était présent avant. Mais le fait de concevoir l'État comme étant un moteur de développement économique et social, c'est nouveau. Et okay. C'est pour ça qu'on commence avec ça.
On s'entend généralement sur le début de la Révolution tranquille chez les experts, là. Mais ça, c'est sa fin qui est plus débattue souvent. Et vous deux, vous la situez en 1983. Pourquoi, Stéphane?
Bien, d'abord, parce qu'il faut voir qu'au début des années 1980, il y a une crise, une récession, hein, crise économique, crise budgétaire également, avec le gouvernement Lévesque qui va décider de couper un peu partout dans les dépenses. Et pourquoi 1983? Ben, c'est aussi là le conflit avec les employés de l'État, les fonctionnaires, mais en 1983, c'est la loi 111 là qui assure le retour au travail dans les collèges, dans les écoles du Québec. Donc, c'est le bras de fer qui a opposé le gouvernement Lévesque aux professeurs, aux enseignants, et qui les oblige à retourner au travail moyennant, là, s'ils le font pas, là, des coupures de salaire, des pénalités assez incroyables. Et en quelque sorte, ça vient symboliser là le consensus autour de l'État québécois et autour de l'État-providence aussi, là, avec cette crise budgétaire, crise économique, qui fait en sorte là, que l'État québécois va tendre par la suite là à devenir plus petit.
C'est paradoxal parce que vous écrivez que le gouvernement Lévesque ait fait la synthèse de la Révolution tranquille, d'une certaine façon, mais c'est lui aussi qui, par son geste, cette fameuse loi là qui visait à limiter les dégâts de la récession du début des années 80, met fin à la Révolution tranquille.
Oui, dans un certain sens, ça met fin à la Révolution tranquille, parce que nous avons remarqué deux tendances. Premièrement, une tendance qui vient du haut vers le bas, c'est-à-dire des dirigeants qui veulent donner une impulsion au moment de la Révolution tranquille avec le rôle de l'État. Et ensuite, une autre tendance, celle du bas vers le haut, des citoyens qui font pression. Donc, à l'époque du premier mandat du gouvernement Lévesque, le gouvernement Lévesque fait la synthèse entre ces deux tendances, c'est-à-dire celle du haut vers le bas et celle du bas vers le haut. Sauf que dès la fin des années 70, avec la situation économique, il y a une pression, cette pression suscite des fissures, suscite des craquements. Et là, la crise économique du début des années 80 impose au gouvernement Lévesque de faire des choix. Et ces choix, on les remarque, entre autres, avec la rémunération des employés dans le secteur public, avec l'obsession de la dette budgétaire qui se présente, parce que la dette budgétaire, au début des années 1980, inquiète de manière considérable les responsables politiques et va les inciter à faire des choix qui sont très douloureux et qui vont toucher, entre autres, la conception de l'État-providence.
Il me semble que la Révolution tranquille, on pourrait dire qu'elle s'est terminée avec le gouvernement Bouchard aussi. Parce qu'après tout, il y a un même paradoxe, c'est-à-dire on est obsédé par la dette, on veut faire le déficit zéro, mais en même temps, on complète l'État-providence avec l'assurance médicaments, les garderies à 5 $ comme on disait, donc les CPE, la perception automatique des pensions alimentaires et tous les projets qu'on va lancer pour aider la natalité, comme c'est complété sous Charest, mais les congés parentaux. Alors, est-ce qu'on pourrait pas dire que le gouvernement Lévesque ou 83 et le deuxième gouvernement Bourassa, c'est comme une suspension de la Révolution tranquille qui va culminer avec le gouvernement Bouchard?
Bien, il est clair que pour nous, à partir du milieu des années 1980, on entre dans un nouveau contexte. Et puis là, c'est aussi un contexte, on pourrait dire, nord-américain, occidental, avec l'arrivée, justement, du néolibéralisme et tout. Et puis, personnellement, je ne serais pas prêt à dire qu'il y a une deuxième révolution tranquille où elle se poursuit, là, une dizaine d'années, 12, 13 années plus tard. Mais il est clair qu'à ce moment-là, le gouvernement Bouchard va s'appuyer sur des éléments de la révolution tranquille et puis des personnalités comme par exemple Pauline Marois, entre autres, donc vont s'appuyer sur certains acquis de la Révolution tranquille et les poursuivre jusqu'à un certain point. Mais on est quand même dans un autre contexte, mais qui montre que c'est pas vrai que l'État québécois, on a mis totalement la hache dans l'État québécois avec la fin de la Révolution tranquille. Il y a des acquis qui vont rester et il y a un filet social même qui va...
Il va s'étendre à ce moment-là.
Qui va perdurer.
Ah oui. Les garderies, assurance médicaments, c'est quand même des énormes dépenses pour l'État.
En effet, c'est des dépenses qui sont importantes. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à partir de 1983, les responsables politiques, comme les citoyens, vont se référer à la Révolution tranquille de deux manières. D'une part, on va dire, on refuse la Révolution tranquille. Ça devient un repoussoir. En disant, regardez, la Révolution tranquille, c'est un État qui est beaucoup trop important, c'est le principe de la dette budgétaire. On a aussi une critique vis-à-vis ce qu'on appelle l'hédonisme, c'est-à-dire des comportements sociaux qui sont plus libéraux. Donc, il y a une critique qui est forte. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on voit, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de cette période de repoussoir, c'est que désormais, on identifie la Révolution tranquille comme dans une forme de filiation. On dit, la Révolution tranquille, c'est un moment où il s'est passé beaucoup de choses. C'est des choses qui étaient positives et c'est des éléments qui sont à remémorer. Et ça, on le remarque dès l'époque de Lucien Bouchard et même à l'époque de Jean Charest, où tout le monde désormais se réfère à la Révolution tranquille.
Même Jean Charest qui avait parlé de réingénierie de l'État, il finit par célébrer l'anniversaire de la Révolution tranquille en grande pompe pendant un an. Moi, ça m'avait frappé.
Il ne donne pas la même signification. C'est ça.
Il va même s'inscrire dans les grands bâtisseurs, comme il disait, lui-même. Donc, avec son plan d'or, et ainsi de suite. La Révolution tranquille devient une référence dans laquelle chacun va puiser un élément. En disant, bon, moi, je vais regarder un élément par rapport à l'économie, l'intervention de l'État, c'est important. D'autres vont dire, ah, c'est l'époque de réveil, c'est l'époque d'épanouissement, de confiance en soi. D'autres vont dire, au contraire, ben regardez, on se souvient, par exemple, des grandes manifestations, des rapports de force positifs qui nous ont donné des choses. En fait, c'est très variable. C'est un peu dimension de mémoire, celui-là.
Votre titre, c'est « Brève histoire de la Révolution tranquille », mais vous évitez les chronologies, tout ça. Vous évitez aussi les personnages centraux. Bon, vous parlez des personnages, mais moi, dans le reste de l'émission, je parle à Roger Lapanne, qui a fait un formidable documentaire avec Jean-Pierre Dussault sur son père, Georges-Émile Lapanne. Il dit que c'est le titre du documentaire, c'est « Mon père de la Révolution tranquille ». Croyez-vous que Lapanne, il peut pourrait avoir ce titre, Stéphane?
On a tellement mis l'accent sur les précurseurs de la Révolution tranquille, ou bien de vouloir donner justement à une figure en particulier le rôle principal, le rôle clé dans la Révolution tranquille. Et puis, M. Lapalme parle de son père. Il y en a qui mettent l'accent plutôt sur Jean Lesage, d'autres qui disent ben c'est René Lévesque. Donc, on n'a pas voulu
mais
mettre
si vous, vous aviez à trancher, là, vous êtes à la haut sur la colline, là. Et je vous demande, Stéphane, Martin, de trancher. C'est qui, le père?
Ah, ben, si
je veux une réponse, là. Comme en chambre, là, je m'en vais voir la période de questions tout à l'heure à 14h. Je veux une réponse, Monsieur le Président.
Ben, moi, si je peux répondre à cette question, c'est qui le père ou la mère? Mais ben, je dirais, en grande partie, ce sont les citoyens au Québec. Ce sont les citoyens. Bien sûr, les citoyens qui, il y en a certains citoyens qui ont eu une part beaucoup plus importante. Stéphane faisait référence à Lévesque, par exemple. On aurait pu mentionner Robert Bourassa.
Donc, vous voulez pas choisir. Vous voulez pas choisir. Parce que ben, parce qu'il y en a pas.
On choisit parce que on considère que ce sont les gens qui ont vécu la Révolution tranquille qui l'ont fait. Mais leur action, par contre, elle est variable. Elle est pas aussi... Il y a certaines qui sont beaucoup plus importantes, d'autres qui sont moins importantes.
Eh oui.
Et c'est dans cet esprit-là, c'est parce que ce qu'on remarque avec la Révolution tranquille, il y a vraiment une volonté de la part de l'ensemble des citoyens de prendre place dans l'espace public.
Bon.
Je fais référence, par exemple...
Là, Martin, vous faites un peu de patinage d'historien, là. Vous répondez pas à ma question. Stéphane?
Nous sommes des historiens.
Stéphane Savard, est-ce que vous vous arrêteriez à un personnage qui a plus d'importance que d'autres dans la genèse de ce formidable moment dans l'histoire du Québec?
Ben, je pense que M. Lapalme n'a pas tort en disant que son père a un rôle central dans cette genèse-là, mais encore une fois, de penser que la Révolution tranquille a été pensée par un seul homme, par exemple, je n'irai pas dans cette direction-là non plus. Il y a eu plein de précurseurs parce qu'il y a tout plein de personnes qui interviennent. Et puis, dans le début de la Révolution tranquille, et puis elle a un second souffle qui est amené par d'autres acteurs, comme on l'explique dans le livre. Donc, un peu comme Martin dit, il y a plein de citoyens, citoyennes qui interviennent.
Puis vous replacez ça dans son contexte international, la Révolution tranquille. Mais ma question, c'est justement, c'est bien intéressant, mais qu'est-ce qu'elle a d'autonome? Est-ce que on pourrait même penser que c'est un produit d'importation à vous lire à certains moments? Qu'est-ce qu'elle a de propre au Québec?
Ben, je vais donner un exemple là-dessus. Moi, je vais sortir un événement. Un événement qui, selon moi, représente bien la Révolution tranquille. C'est la question des Boat People en 79-80. Et lorsque vous avez quelqu'un comme Jacques Couture qui remarque ce qui se fait, par exemple, à l'extérieur du monde, va, par exemple, dans les camps réfugiés concernant la guerre du Vietnam, où il y a beaucoup d'Indochinois qui sont là, considère que c'est le rôle de l'État de jouer un rôle important. D'ailleurs, Couture, c'est aussi l'entente Couture-Colin concernant le rapatriement des pouvoirs en matière d'immigration au Québec. Donc, c'est un élément qui est particulièrement important. Donc, Couture joue un rôle ici, mais en même temps, vous avez des centaines, des milliers de personnes qui vont accueillir des réfugiés, qui vont parrainer des réfugiés un peu partout au Québec. Et ça. C'est pour ça qu'on dit que cet événement-là, selon nous, représente bien la Révolution tranquille. Vous avez à la fois des gens qui vont décider, mais aussi des gens, d'autres, des citoyens qui vont s'impliquer là-dedans et qui vont dire, ben écoutez, c'est notre rôle comme citoyen, pour des raisons d'humanité, dans le cas des Boat People, mais aussi des raisons d'émancipation. Vous allez, par exemple, ce qu'on voit en Gaspésie avec la fermeture des villages où les gens décident de garder leur village, eh bien, ça, c'est quelque chose qui est très distinctif au Québec. On voit pas vraiment ça ailleurs dans le monde. Ça, c'est de voir à la fois, disons, des leaders d'opinion, là, de ce qu'on appelle, nous, on appelle les élites définitrices, mais aussi des protagonistes, des simples citoyens, des simples citoyennes qui vont embarquer là-dedans. C'est-à-dire, c'est un phénomène qui est assez, pour avoir étudié, par exemple, le cas canadien, ou avoir étudié le cas américain, on retrouve pas vraiment ce genre de conjonction à la fois des décideurs et des simples citoyens, comme on l'a pu voir au moment de la Révolution tranquille. On voit des phénomènes de masse un peu partout, mais c'est pas du tout à fait la même chose. C'est vraiment spécifique au cas québécois.
Très bien.
Je peux ajouter un autre point, M. Robitaille.
Très rapidement, merci.
Oui. Très rapidement. Moi, je dirais aussi que ce qui donne une coloration particulière à la Révolution tranquille, il y a tout plein de phénomènes qui transcendent l'espace canadien, et c'est la question nationale aussi. Sur le plan du féminisme, sur le plan de bien des phénomènes, la question nationale va donner une coloration particulière à l'époque de la Révolution tranquille.
Très bien.
Je suis d'accord avec Stéphane là-dessus.
Ben, c'est bon parce que vous êtes des co-auteurs, c'est idéal. Merci infiniment et je renvoie à votre livre « Brève histoire de la Révolution tranquille ». C'est aux éditions Boréal.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
Georges-Émile Lapalme est un des personnages les plus fascinants de l'histoire moderne du Parti libéral du Québec et du Québec. Il a été chef du Parti libéral de 1950 à 1958. Il est méconnu, voire oublié. Heureusement, un documentaire intitulé « Intelligemment, mon père de la Révolution tranquille » lui est consacré et peut être visionné gratuitement sur Savoir TV. On a les deux artisans principaux de ce documentaire-là au bout du fil. C'est Jean-Pierre Dussault, bonjour.
Bonjour.
Réalisateur et Roger Lapalme, bonjour.
Bonjour.
Fils de Georges-Émile Lapalme et scénariste. D'abord, permettez-moi de vous dire que c'est un documentaire extrêmement bien fait. Vous avez des archives nombreuses, pertinentes, les images, les intervenants. Et aussi, c'est magnifiquement construit. Mais là, ma question, c'est comment vous en êtes venu à vouloir vous lancer dans cette aventure?
Je travaille avec Roger depuis plusieurs années. J'ai appris à un moment donné qu'il était le fils de Georges-Émile Lapalme, puis j'en connaissais très peu, mais je me souvenais du nom de M. Lapalme. Et puis, au fil des discussions, j'ai proposé de faire le sujet de son père en documentaire, puis je pense que Roger était pas prêt à ça, donc je te laisse continuer, Roger. Pour
ouais, oui, je me sentais un peu trop près du sujet au départ, mais avec le temps, effectivement, j'ai vieilli aussi. Puis, à un moment donné, j'avais travaillé, moi, sur un projet d'adaptation de la pièce de Claude Corbeau sur mon père. Je voulais l'adapter pour le cinéma. Puis, j'ai travaillé là-dessus un certain temps. Puis là, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était un documentaire. Et alors là, on a commencé les premiers jets là-dessus avec Jean-Pierre.
Mm-hmm. Et pourquoi il était important, en 2021, qu'on se souvienne du parcours de Georges-Émile Lapalme?
Je vous dirais qu'il était important il y a longtemps déjà, parce que notre projet a débuté autour de 2012-2013.
Oh, okay. C'est long les projets de documentaires au Québec. Il faut être patient. Moi, pour le dernier Felkis, on a commencé en 2010, puis on a fini en 2020.
Ben oui.
Alors, c'est important parce que c'est incroyable qu'il soit méconnu comme ça. Vous, Roger Lapalme, là, vous êtes le fils de... Et j'ai lu à quelque part que vous avez appris beaucoup de choses aussi, même si, évidemment, c'est votre, c'est votre paternel.
Oui, tout à fait. Moi, j'étais... quand j'ai réabordé ça, là, justement, pour le documentaire, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Dans mon enfance, mon père était le bon Dieu, puis Duplessis était le diable. Oui. C'était pas trop compliqué. Mais rendu à l'âge que j'ai, je me disais, quelle a été son importance, quel a été son rôle? Et une des premières personnes qu'on a appelées, c'est Yves Michaud, je me rappellerai toujours. Je lui dis que je travaille sur projet sur Georges-Émile Lapalme. Et la première chose qu'il me dit, c'est Georges-Émile Lapalme est le plus grand homme politique que j'ai connu de toute ma vie.
Ah oui?
Alors moi je suis ébranlé par ça, lui qui a été un petit peu de bras droit fidèle de René Lévesque et tout. Effectivement, j'ai découvert un homme que je soupçonnais pas, une espèce d'homme politique idéal, complètement désintéressé. Il devient chef de parti parce qu'il pense qu'il peut battre Duplessis. Il n'arrive pas à le battre à l'élection de 52. Il remet, au lendemain, il remet sa démission au parti. Il dit, prenez quelqu'un d'autre si je fais pas l'affaire. Il y a aucune ambition personnelle, on dirait. Il y a énormément d'ambition pour nous tous, pour la collectivité. Et ça, par rapport à la langue et la culture, c'était un homme qui était intarissable. Mais il dit lui-même qu'il n'a jamais eu le virus de la politique. C'est pas compliqué, il l'a dit, ça.
Oui, il a même dit, on le voit dans le documentaire, j'ai perdu mon temps en politique. Comment il peut dire ça, puis en même temps, on sait qu'il est le père de la Révolution tranquille, d'une certaine façon, donc il est loin d'avoir perdu son temps, là.
Oui, Jean-Pierre. Je dirais, cette archive-là, qui est un extrait d'une entrevue qu'il a fait avec Jacques Languérand. On a eu la chance, je vais mettre mon chapeau de producteur. On a eu un premier financement qui est venu de la Ville de Québec, à la mesure d'aide au démarrage des productions cinématographiques. Puis ça nous a permis d'aller fouiller dans les archives. On a commencé par celle de Radio-Canada. Puis on a mis la main sur un paquet de trucs, dont cette entrevue-là. Et on l'a écouté chacun de notre côté, puis on l'a écouté ensemble, Roger et moi. Puis quand j'ai entendu ça, on prenait des notes. Puis pour moi, là, quand il se fait poser la question, j'ai perdu mon temps. Je me disais, c'est la phrase à mettre en ouverture de film. Je trouve ça percutant.
Ben oui. Il y avait un côté cassant, Georges-Émile Lapalme, vraiment. On dit qu'il souriait pas trop. C'était presque un reproche des gens qui étaient autour de lui.
C'était un homme plutôt froid, je dirais, en personne, là, vous rencontriez. Il était pas, c'était pas le genre les tapes dans le dos puis les grands sourires comme certains autres politiciens, pas du tout. C'est un homme plutôt froid, mais qui était tellement passionné par les idées, par l'action. C'était un homme d'action. Mm-hmm. Et les gens le suivaient pour ça. S'il a enthousiasmé quand même les libéraux pendant les années 50, c'est parce qu'il y avait une fougue, il y avait une ferveur, il y avait une croyance.
Parlons du traitement. Vous suivez tout le long du documentaire la fabrication du buste qui va être placé finalement, je crois, en 2017 ou 2018 devant le ministère de la Culture ici à Québec. Vraiment une idée géniale, parce qu'on voit tout au long, ça revient là, de cette présentation du buste, on va à l'endroit où on va couler le buste. C'est vraiment une idée formidable. Mais est-ce que le Parti libéral de l'époque, avec Philippe Couillard, voulait réhabiliter par ce buste-là Georges-Émile Lapalme? Il peut y avoir des parallèles à faire entre Couillard et Lapalme, non?
Ça me vient pas, là, mais...
Le côté cérébral, M. Couillard aimait beaucoup les idées aussi, il lisait énormément. Il n'y avait pas une idée aussi claire, peut-être, du Québec que Georges-Émile Lapalme, mais c'est ce que je veux dire, là.
En tout cas, lui, quand on s'est vu, il me parlait plutôt d'Adélard Godbout, qui était son modèle.
C'est vrai.
Mais non, je pense pas. Je pense que l'idée au départ, ce sont d'anciens ministres des Affaires culturelles qui se sont mis ensemble pour faire la proposition qu'il y ait quelque chose pour honorer la mémoire de mon père devant les locaux du ministère. Et le ministère a jonglé avec l'idée, différents types de soit une plaque, un monument, une sculpture, quelque chose comme ça. Puis finalement, ils ont choisi de faire un buste. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en collaboration d'ailleurs avec la Commission de la Capitale-Nationale.
OK.
Oui.
Jean-Pierre, oui.
Je reviens sur cette histoire-là, suivre la création du buste.
Oui.
Ça, c'est un autre des privilèges de prendre son temps. Comme le film était en train de se faire depuis un certain temps, puis que cette histoire-là s'est produite, là, je savais que Roger assistait à la sélection de l'artiste qui allait faire l'œuvre. Donc, ça nous a permis de suivre tout le processus. Michel Binette, l'artiste, a vraiment ouvert les portes de son atelier. Je suis allé faire les premières images-là. On a pu suivre ensuite le moulage, tout le processus ici, pas loin, à Inverness, à l'atelier du bronze. Mm-hmm. Donc, c'était pour moi, d'entrée de jeu, là, on a vraiment un fil conducteur. Ça nous permet de faire le lien entre la création d'une œuvre sur ce personnage-là. Donc, je trouvais que l'idée était vraiment arrivée à point.
Est-ce que c'est une victime, Roger Lapalme, votre père? victime d'abord de Duplessis, qui a quand même truqué les élections de 1956, d'après ce qu'on comprend, et même à l'époque, ça avait été dénoncé, mais victime aussi de Lesage, qui, finalement, une fois élu en 1960, lui donne pas les moyens, le regarde de haut, l'ignore presque. Est-ce que c'est une victime, Georges-Émile Lapalme?
J'hésiterais à employer ce terme-là parce que lui-même n'a jamais eu un comportement de victime. Mm-hmm. Je vous dirais, ce que je répète tout le temps, mon père ne s'est jamais plaint. J'ai jamais vu mon père se plaindre une fois de toute ma vie. Jamais. Du sort qu'on lui avait fait. Jamais. Et Dieu sait que des coups de cochon, il y en a eu. Là, on peut parler de Louis Saint-Laurent, on peut parler de Le Sage, en tout cas, il y en a eu. Mais par contre, il se plaignait constamment du sort qu'on faisait à la langue et à la culture. Alors, c'est victime, il emploie le mot une fois dans son discours de démission en 1958 devant le Congrès.
Ah oui?
Il dit, j'ai accepté d'être la victime de la politique, mais non pas le complice. Mm-hmm. c'est la seule fois où il emploie ce mot-là. Mais oui, il a accepté tous les sales coups qu'il a eu à subir. Il les a acceptés, il les a encaissés en disant « j'ai voulu y aller, j'assume ». Il n'y a personne qui l'a obligé à aller en politique. Mais personnellement, je ne le vois pas comme une victime, non.
Mm-hmm. Tout au long du documentaire, on se demande si Georges-Émile Lapalme, puis je reviens peut-être à ma question où j'ai évoqué Philippe Couillard, est-ce que c'est devenu une sorte de passé gênant pour le Parti libéral? Parce que le Parti libéral est tellement différent quand on sait l'accent que Georges-Émile Lapalme a mis sur la langue, sur la culture. Il me semble que c'est plus... C'est pas surprenant qu'Yves Michaud en ait fait un héros. Et donc, il est loin du Parti libéral d'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il est gênant pour le Parti libéral d'aujourd'hui?
Ça, faudrait demander aux gens du Parti d'aujourd'hui. Je ne le croirais pas. Je pense que quand le Parti évoque son passé glorieux, il y a toujours la Révolution tranquille, puis Jean Lesage, etc. C'est quand même valorisé. Ça, je ne peux pas vous dire l'esprit du moment par rapport à ça, je ne le sais pas.
Quand on parle à tous les anciens ministres des Affaires culturelles,
ouais.
Qu'ils soient libéraux ou péquistes, ouais, ouais. Ils ont tous le même avis sur le personnage. Ça, je pense que ça dépasse les partis. J'ai bien aimé que Thierry pose la question à Roger dans le film, à savoir, oui, mais ton père, quelle était sa position par rapport à l'indépendance du Québec? C'est une question vraiment importante, parce que pour moi aussi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il aurait fait aujourd'hui dans un contexte politique? Comment il s'est enligné? J'ai aucune idée, mais la question était intéressante.
Est-ce qu'il a voté non en 80? Et est-ce qu'il a participé à la campagne comme ancien chef du Parti libéral?
Non, il était neutre lors du référendum.
On lui a
demandé de participer au comité du non, ou peut-être lui aussi, j'en sais trop rien, mais je sais qu'il a refusé. Il est resté neutre.
OK, il n'y a pas de trace de prise de position de lui en 1980?
Non.
OK. Où il était à l'époque, dans le sens de qu'est-ce qu'il faisait? Il était à la retraite ou...
Le référendum de 80, il est encore, je crois, conseiller culturel, conseiller spécial du ministre des Affaires culturelles.
OK.
Sous M. Vaugeois, dans l'époque, je pense.
C'est ça.
Ah, sous M. Vaugeois. OK.
Ouais.
Il fait partie de ces libéraux qui... Bon, René Lévesque, lui, évidemment, a fondé un parti, tout ça, mais ces libéraux qui auraient pu passer du côté, un peu comme Jean-Paul Lallier, très féru d'histoire et de culture et attaché à la langue française, à l'héritage français du Québec. Donc, franchir le Rubicon, là, puis devenir souverainiste.
Je vous laisse interpréter.
Parce que c'est de ce côté-là qu'on l'imagine, en tout cas, avec ses prises de position nombreuses et donc fermes à l'égard de la culture. Moi, j'ai été impressionné, par exemple, quand il parle de la langue française, il dit qu'on aurait pu faire comme les Turcs ou les Israéliens qui ont créé une nouvelle langue ou réactivé une langue ancienne. C'est fascinant.
Moi, je vous dirais, je ne l'ai jamais senti attiré aucunement par l'option indépendantiste, outre dans sa jeunesse, quand il a lu les écrits de l'abbé Groulx dans les années 20, là, puis là, il dit tout le monde l'était, de toute façon, au collège, tout le monde adhérait à ces idées-là. Mais sinon, non, j'ai jamais été attiré par ça. Lui, comme je le mentionne brièvement dans le documentaire, il disait ce qu'il trouvait déplorable du nationalisme de Duplessis, de l'autonomisme de Duplessis, c'est qu'il ne débouchait sur rien. Ce n'était que des attaques contre Ottawa et puis du placotage, mais il se passait rien. Lui, il disait, on a énormément de pouvoir, servons-nous de ce pouvoir-là. Mm-hmm. Il se trouve que l'ouverture de la délégation générale du Québec à Paris, c'est un parfait exemple de ça. Ça faisait des années qu'il demandait ça, lui, à Duplessis. On voyait l'Ontario à côté, qui avait une maison de l'Ontario à Londres, depuis des années, des années 50. Québec ne faisait rien. Québec avait le pouvoir de le faire. Il n'avait pas demandé la permission. Mm-hmm. Mais on ne le faisait pas. C'était comme ça dans tous les domaines. C'était l'immobilisme. Alors, c'est pour ça que la Révolution tranquille a été tellement une période de un si grand rattrapage. Parce que, justement, on n'utilisait pas les pouvoirs qu'on avait. Mm-hmm. Il ne pense pas qu'il cherchait nécessairement plus de pouvoir, il cherchait l'action, l'action concrète. C'est avec ça. Les instruments qu'on avait.
Oui, Jean-Pierre?
Oui, je sais que les historiens n'aiment pas ça, ce que je vais dire, là, parce qu'on ne refait pas l'histoire, mais je me souviens que M. Yvon Dupuis, qui avait M. Lapalme en adoration, disait qu'on ne voulait pas qu'il parte en 58 quand il a remis sa démission après l'élection de 56. Ben, on se dit, qu'est-ce qui serait passé si, effectivement, au lieu de démissionner, il avait dit, bon, ben on y va en congrès, puis je suis là, je suis disponible. Ne sachant pas que Duplessis allait mourir, ni Paul Sauvé, la voie se serait ouverte à lui, il serait devenu le premier ministre de la Révolution tranquille. Donc, on ne refait pas les choses, là, mais je pense que son destin aurait été tout autre.
Très bien. Ben, merci infiniment pour cette conversation autour de ce formidable documentaire, malheureusement qui ne dure qu'une heure. On en aurait pris plus. Donc, c'est Mon père de la Révolution tranquille que vous pouvez regarder gratuitement sur savoir.tv. Merci Jean-Pierre Dussault, réalisateur. Merci. Puis merci à Roger Lapalme, scénariste et fils de Georges-Émile Lapalme. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.